Tout de suite le sommaire de ce jeudi midi. Le budget de l'État de l'année 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses à 17 720 milliards de francs CFA, soit une progression de 17,3% par rapport à 2023. C'est la principale information sortie du Conseil des ministres d'hier mercredi, tenu au palais de la présidence et présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Amélioration de la prévisibilité de la transparence des échanges commerciaux en Côte d'Ivoire. Bien avant sa mise en œuvre, une formation des agents des douanes de la direction régionale de San Pedro et des acteurs du secteur privé a eu lieu hier, mercredi. Dans l'actualité internationale au Mali, les casques bleus tchadiens commencent à quitter Kidal plus tôt que prévu. Et puis en fin d'édition, Jean-Claude Comé recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction à Damas Sadio, politologue sénégalais. Les échanges porteront sur la restriction sur la liste électorale du nom de l'opposant Ousmane Sonko, radié pour des raisons judiciaires. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Le budget de l'État de l'année 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses à 17 720 milliards de francs CFA, soit une progression de 17,3% par rapport à 2023. C'est la principale information sortie du Conseil des ministres d'hier, mercredi, tenu au palais de la présidence et présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. On en parle avec Junior Carnet.
Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a d'abord indiqué les orientations de la politique budgétaire 2024.
Ainsi, la politique budgétaire sera orientée vers l'intensification des efforts de mobilisation des recettes intérieures, la gestion efficiente des charges de fonctionnement de l'État et la maîtrise de l'endettement public en vue de soutenir davantage la transformation structurelle de l'économie et la couverture des besoins sociaux et sécuritaires.
Puis, Amadou Koulibaly a précisé que le budget pour l'année 2024 privilégie les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance.
Le renforcement des infrastructures socio-économiques, la consolidation du dispositif sécuritaire et l'accroissement des dépenses en faveur de la réduction de la pauvreté et des disparités sociales, notamment à travers la poursuite de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PSGOV 2021-2025, avec un accent particulier accordé à la jeunesse à travers le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, le PJGOV.
Objectif majeur pour l'atteinte desquels le budget a été conçu en conséquence.
Le projet de budget de l'année 2024 s'équilibre en ressources et en charges à 13 720,7 milliards de francs CFA, soit une progression de 17,3%.
Dans les divers de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a adressé une lettre circulaire à chacun des ministres afin de rappeler les grands principes de la gestion des ressources publiques avec en ligne de mire la bonne gouvernance.
Voilà, Junior Cardin précisant que le budget de l'État de l'année 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses à 13 720 milliards de francs CFA, soit une progression de 17,3% par rapport à 2023. Autre chose dans ce journal, le Sénat ivoirien a procédé mardi dernier à Yamoussoukro à la mise en place de ses organes, notamment son bureau ainsi que ses commissions permanentes. La toute nouvelle présidente de l'institution, Kandia Kamisoko Camara, qui présidait cette séance plénière à Othème des travaux, affiché sa détermination ainsi que celle de son équipe à relever tous les défis. Nous l'écoutons.
En effet, nous venons de procéder à la mise en place des organes du Sénat conformément au règlement de notre institution. Et donc, nous avons mis en place le bureau du Sénat. Il comporte normalement 17 membres, mais nous venons d'installer 15 en attendant l'entrée du PDCI-RDA. Et ensuite, nous avons mis en place les 6 commissions permanentes. Ça veut dire que le Sénat est prêt pour reprendre ses activités. Évidemment, le Sénat a pour mission de faire voter les lois, d'évaluer les politiques publiques, de contrôler l'action gouvernementale et de représenter les collectivités territoriales et les Ivoiriens établis à l'extérieur. Je peux vous dire que nous avons une équipe déterminée, engagée, prête à se battre pour relever tous les défis. Nous avons déjà 13 projets de loi qui nous attendent. Nous avons la loi de finances, nous avons des projets de loi sur le statut des diplomates, sur le statut des fonctionnaires et bien d'autres projets de loi. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le Sénat est prêt à accueillir les commissaires du gouvernement afin d'étudier tous les projets de loi qui vont nous être soumis. Donc, nous sommes pour le moment 97 sénateurs en attendant l'arrivée des deux autres. Donc, au total, nous serons 99 sénateurs et je vous promets que les 99 sénateurs joueront pleinement leur rôle sur l'échiquier national.
Voilà, Kandia Kamisoko, Camara, présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien, dans des propos recueillis par Émile Yao. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace OCDEA au Côte d'Ivoire, en collaboration avec le groupe de travail Femmes Jeunes, Paix et Sécurité pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, la section Côte d'Ivoire, ont organisé un atelier d'appropriation de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, cet atelier a pour objectif de présenter la résolution 2050 en 2015 des Nations Unies sur les jeunes, paix et sécurité et susciter effectivement son appropriation et sa vulgarisation. Écoutons à ce propos Cissé Fanta, représentant de la CDAO, en Côte d'Ivoire.
Le message que je souhaiterais envoyer, c'est qu'on prenne vraiment en compte la présence des jeunes, qu'on puisse les impliquer et qu'ils puissent montrer leur savoir-faire. Parce qu'effectivement, ils sont nombreux à avoir un savoir-faire, à avoir des compétences. Et le fait d'être présent aux instances de décision sera vraiment positif pour nous et nous aidera aussi à mieux adapter nos mesures, nos décisions, nos arrêtés sur la problématique actuelle. Donc avec leur implication, leur appui, leur soutien et leur présence pendant nos réunions, eh bien, ils pourront nous apporter beaucoup et nous peut-être certainement même nous faire mieux comprendre les réalités d'aujourd'hui.
Dans le contexte actuel, précisément, c'est que la jeunesse de la CDAO, tout comme les anciens, sont assez éprouvés par ce qui se passe, et d'où l'importance d'une réunion comme celle-là.
Ah oui, cette réunion est très importante parce que ça permet, d'abord, on va expliquer la résolution 2250 des Nations Unies qui implique la jeunesse dans les résolutions de la paix et de la sécurité, et puis aussi dans la prévention des conflits. Donc, et comme nous allons avoir les élections en Côte d'Ivoire, c'est une très bonne chose, afin qu'on puisse leur faire comprendre l'importance de l'organisation de ces élections qui doivent se dérouler dans la paix, dans la sécurité et dans la cohésion sociale.
Voilà, Cissé Fanta, représentante de la CDAO en Côte d'Ivoire, au micro de Mata Touré. Dans le cadre du projet d'amélioration de la prévisibilité et de la transparence des échanges commerciaux en Côte d'Ivoire, il a été initié un mécanisme de décision anticipée. Ce mécanisme consiste à donner une décision en matière de classement tarifaire et d'origine de marchandises pour faciliter les échanges. Et bien avant sa mise en œuvre, une formation des agents des douanes de la direction régionale de San Pedro et des acteurs du secteur privé a eu lieu mercredi dernier à San Pedro. On en parle avec Benson Kofi, notre correspondant sur place.
Pour être plus performant dans les échanges commerciaux, il est nécessaire d'exploiter des mécanismes, dont celui des décisions anticipées. Un mécanisme qui est présenté par le formateur, le colonel Néan Didier, de la Direction Générale des Douanes.
Décision anticipée, c'est en réalité une décision qui est donnée à un requérant, un importateur, sur la question du classement tarifaire ou de l'origine d'une marchandise. Préalablement à son importation. C'est un mécanisme qui va permettre d'accélérer les procédures.
Pour le lieutenant-colonel Kounemewa de la Direction régionale des douanes de San Pedro, les décisions anticipées faciliteront les tâches des agents des douanes.
La classification et les règles d'origine sont un domaine un peu complexe. Et donc, mettre en place un tel mécanisme, cela sera une bonne chose pour nous. Particulièrement au niveau de San Pedro, nous sommes satisfaits. Tel qu'il est exposé, nous pensons qu'il va nous apporter énormément. Nous, en tant que service de première ligne, il va nous faciliter nos tâches et faciliter la tâche de nos usagers que sont les importateurs et les commissionnaires en douane agréés.
Kone Doni Sondi est chef de département transit à AGL. Pour lui, les décisions anticipées sont à saluer.
Cette décision anticipée permet donc à nous, opérateurs économiques, de bénéficier d'avance de la célérité de nos opérations, de savoir d'avance également quels sont les droits et taxes auxquels on sera soumis. C'est vraiment une option qui nous permet, dans certaines situations, de faire des prévisions des finances. En tout cas, nous pensons que c'est une bonne chose.
Ce projet de décision anticipée est mis en œuvre par la coopération allemande GIZ. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Oh oui, Benson Kofi, restant tout près de votre région, le nouveau président du Conseil régional du Haut Sassandra a présidé récemment la première session ordinaire du Conseil régional sous le signe de la transparence et de la cohésion au sein des cadres de la région. Eh bien, Mamadou Touré a également procédé au lancement de la troisième phase, la phase 3 précisément du projet d'emploi jeune et développement des compétences au cours de cette session du Conseil régional du Haut-Sassandra. On en parle avec Jean-Noël Kouamé.
Cette première session ordinaire du Conseil régional a été l'occasion d'examiner et adopter le règlement intérieur, les commissions de travail et le comité économique, social et environnemental du Haut-Sassandra. Mamadou Touré, président du Conseil régional.
Nous avons adopté 18 commissions de travail avec des thématiques d'intérêt pour la région, que ce soit les commissions au sein du Conseil ou du Conseil économique et social. Ce sont des cadres qui vont aider le Conseil régional pour le développement de cette région. Nous avons fait valider différents projets, des projets de construction de salles de classe dans différentes sous-préfectures, d'adduction en eau potable, de forage, d'électrification. Et nous allons faire en sorte que l'ensemble des engagements qui ont été pris soient respectés au nom de la redevabilité, de la transparence et de la démocratie. Nous avons eu près de 1,3 milliard en termes de budget modificatif. C'est ce 1,3 milliard qui est réparti sur différents projets.
Cette rencontre a également été l'occasion de procéder au lancement de la troisième phase du projet emploi jeune et développement des compétences PGD.
Plus de 2 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement, 200 millions de francs CFA mis à disposition par le ministère de la Jeunesse à la région du Haut-Sassandra, plus de 4 600 jeunes qui seront bénéficiaires de différents programmes dans les sous-préfectures.
Le Conseil régional du Haut-Sassandra entend se pencher sur le plan triennal et le plan de développement de la région lors des prochaines rencontres et apporter une dynamique nouvelle dans la manière de gérer le Conseil régional dans la transparence, a indiqué le président du Conseil régional du Haut-Sassandra. Jean-Noël Kouamé, d'Aloa, Radio de la Paix.
Retour à Abidjan où l'Organisation mondiale de la santé OMS a procédé à la remise d'un lot de matériels médicaux et d'équipements informatiques au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On en parle avec Mata Touré.
À cette occasion, Piangou Dimba a également reçu la dernière mouture de la feuille de route de cette institution pour les années à venir.
La stratégie que nous avons arrêtée, c'est vraiment un cadre de travail orienté sur nos priorités, les priorités nationales qu'appuie l'OMS. Et à côté de l'OMS, c'est l'ensemble des partenaires qui appuient le système de santé. Une région où vraiment il y a beaucoup d'épidémies qui se déclarent, donc pour être capable de faire face.
Un vibrant hommage a été rendu au docteur Jean-Marie Yameogo Vianney Maurice, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire sur le départ pour sa grande contribution sur la santé publique en Côte d'Ivoire pendant 6 ans.
Que tout le monde s'engage, d'abord les communautés, les familles, les ménages, les politiques et à tous les niveaux, on puisse se dire que la santé me concerne. Avant que ça ne soit l'affaire du ministère de la Santé seul.
J'ajoute qu'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA de dons composés de 6 véhicules de type 4x4 destinés à 6 districts sanitaires font partie entre autres des dons.
Dans l'actualité internationale, les casques bleus tchadiens de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA ont commencé à partir plus tôt que prévu de la région de Kidal, dans le nord-est du pays notamment, pour protester contre le refus des autorités maliennes de transition d'accorder les autorisations de vol pour rallier le Tchad. Si ce départ accéléré de Kidal se poursuit en début de semaine prochaine, eh bien, les casques bleus tchadiens auraient quitté cette ville sous contrôle des rebelles de la coalition dénommée cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, soit quasiment deux semaines avant la date initialement prévue. Une partie du matériel non transportable sera détruite et comme prévu ailleurs, une autre partie, notamment des chaises, du matériel bureautique pourrait être offert aux populations civiles. En sport, l'INPHB vient de lancer dans sa matrice d'action et de formation une nouvelle filière. Il s'agit d'un master en gouvernance et administration du sport. La cérémonie de lancement de cette filière s'est tenue mardi dernier à la maison de l'entreprise au plateau. On en parle avec Didier Blé.
Une meilleure gestion de l'après-carrière sportive passe forcément par la formation et l'anticipation. Haruna Dendane, ancien footballeur international ivoirien et panéliste.
Moi, je dois tout à la formation. Depuis mes 14 ans jusque maintenant, quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis formé. Aujourd'hui, je suis manager sportif avec la Fédération ivoirienne de football et je prends beaucoup de plaisir à le faire.
Le Centre d'excellence régionale en gouvernance et économie du sport de l'INPHB offrira donc deux formations, une pour un Master 1 en management des organisations sportives et une autre pour un Master 2 en gouvernance et administration du sport. Koulibaly Diatikiba, chef de projet création du centre.
On a été inspiré par le fait que l'économie du sport est devenue vraiment un volet très important dans le développement de tout un pays. Donc on a dû faire un diagnostic au niveau de notre environnement sportif et on a compris tout de suite qu'il fallait implanter au niveau de l'INPH cette prestigieuse formation.
L'INPHB s'enrichit. Cette formation est prometteuse, son secrétaire général, Dr Sié Palé.
C'est important de gérer la précarrière sur terrain. Et pour ce faire, il faut avoir les atouts, il faut avoir les outils. Et cela ne passe que par la formation. On ne peut que réussir.
Le Centre d'excellence régionale, notons-le, est en partenariat avec celui de droit et d'économie du sport de Limoges en France. Les cours, quant à eux, débuteront à Yamoussoukro en février 2024.
À présent, l'invité de la rédaction, Jean-Claude Comé, reçoit Damas Adio, politologue sénégalais également chargé de cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les échanges portent sur la restriction sur la liste électorale du nom de l'opposant Ousmane Sonko radié pour des raisons judiciaires. Quelles implications politiques cette décision pourrait-elle avoir et quelle est l'ambiance politique au Sénégal à quelques mois seulement de la présidentielle? La réponse dans cet entretien.
Docteur Adama Sadio, bonjour.
Bonjour.
L'actualité sénégalaise est marquée par l'élection présidentielle avec ses multiples candidatures. Alors, pourquoi cet intérêt
Bon, déjà, une pluralité de candidatures, c'est l'expression d'une vitalité démocratique. Cela veut dire que donc, tout Sénégalais qui prétend être dans les dispositions de gouverner le Sénégal a la possibilité de prétendre à la candidature. Maintenant, vouloir être candidat et être candidat, c'est deux choses totalement différentes. Dans la mesure où, au Sénégal, il y a d'abord ce qu'on appelle le système de parrainage. Il y a un parrainage citoyen ou il y a un parrainage parlementaire. Il y a un parrainage des élus. Maintenant, pour le parrainage parlementaire, il faut au moins avoir 13 députés qui parrainent un candidat. Mais pour le parrainage des élus, il faut plusieurs élus locaux, notamment des maires ou des présidents de conseils départementaux, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs partis politiques. Donc, là sont les partis politiques aujourd'hui qui peuvent prétendre à ce système de parrainage-là. Cela dit, aujourd'hui, on compte plus de 200 candidats. Pour la question du parrainage, cela n'a rien à voir avec le dossier de candidature qui sera également déposé au Conseil constitutionnel.
Alors, mais on note aussi que c'est un fait. Le président en exercice a fini par annoncer sa non-candidature. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, Macky Sall a été obligé de prendre cette décision ou c'était le respect de sa parole donnée, de mandat sans plus?
En fait, c'est vrai que dans ses explications, il dit au monde, il dit aux Sénégalais, il peut être toujours candidat, mais s'il n'est pas candidat, c'est parce qu'il tient à sa parole donnée. Mais la réalité des faits est autre. La réalité, c'est que le président Macky Sall, les actes qu'il a toujours posés de 2019 à nos jours, ce sont des actes qui ont toujours montré sa volonté d'être candidat. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un rapport de force à un moment qui n'était pas en sa faveur, donc ce qui l'a obligé à se rétracter, à changer de position. Parce que, un, s'il était candidat, la tension était tellement vive au Sénégal que ça risquait donc d'augmenter la tension dans le pays, mais aussi qu'il n'est pas évident que le président Macky Sall, qui se présente à une troisième candidature, puisse remporter l'élection présidentielle. Vous savez, le peuple sénégalais est un peuple un peu particulier dans la mesure où c'est un peuple qui est très attaché aux valeurs de démocratie et de droits humains. Vous voyez aujourd'hui des intellectuels, des universitaires qui produisent des manifestes régulièrement contre le président Macky Sall. Forcément, ils ne sont pas contre lui, mais ils sont contre, en fait, l'état actuel de la démocratie sénégalaise. Et là, nous sommes à 5 mois de la présidentielle et je pense que ce sera une élection présidentielle à observer minutieusement parce que c'est une élection avec beaucoup d'enjeux parce que également c'est la qualité de la démocratie sénégalaise qui est en jeu.
L'un des acteurs qui a poussé un peu le président Macky Sall à se rétracter, c'est l'opposant Ousmane Sonko qui est emprisonné. Mais les développements judiciaires lui permettent aujourd'hui qu'il soit inscrit sur la liste électorale déjà. Comment vous réagissez par rapport à cela?
Oui. En fait, vous savez, ce qui vous montre aujourd'hui que la démocratie sénégalaise n'est pas en bonne santé, c'est que lorsque le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor a rétabli Ousmane Sonko dans ses droits civils et politiques, mais c'était comme si le Sénégal avait gagné la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique. Mais alors qu'une décision de justice en faveur d'un opposant mais doit être une banalité dans une démocratie, mais c'est devenu un cas extraordinaire. Donc cela veut dire que là, il y a vraiment lieu de s'interroger sur la qualité actuelle, je dis bien, de la démocratie sénégalaise. Maintenant, oui, le juge récemment a ordonné la réinscription de Ousmane Sonko sur la liste électorale, mais le monsieur n'est pas encore sorti de l'aubaine parce qu'il y a encore un autre dossier, le dossier de diffamation avec le ministre Mamanian qui est à la Cour suprême. Et semble-t-il, d'après en tout cas certaines informations, que la Cour suprême va vider cette affaire-là bientôt.
Alors, cette décision judiciaire, quelles sont les conséquences justement, la demande de réinscription de Ousmane Sonko, est-ce que cela lui permet éventuellement d'être candidat?
Oui, absolument. À l'instant où nous parlons, donc M. Ousmane Sonko garde intact ses droits civils et politiques parce que sa révélation était basée sur le fait que le monsieur est jugé en état de contumace en vertu de l'article L.29 du code électoral sénégalais.
À quelques mois des élections, quel est votre état d'esprit, vous, Sénégalais, observateur de la scène politique? Est-ce qu'on pourra avoir des élections apaisées?
Le climat aujourd'hui fait qu'il y a raison d'avoir un peu peur parce qu'une élection apaisé nécessite une élection inclusive, n'est-ce pas? Alors que malheureusement, avec là où nous nous en sommes, l'élection n'est pas encore inclusive, donc avec cette tentative d'exclusion d'une candidature. Et rappelons que ce n'est pas la première fois que ça passe. Déjà en 2019, les candidats Kamim Ouad et Khalifa Sall ont été exclus de la compétition. Et là aussi, vraisemblablement, en tout cas, le régime est très engagé et très déterminé à empêcher M. Ousmane Sonko de participer à cette élection présidentielle de 2024. Quand il y a une exclusion électorale, ça peut être source de tensions politiques. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas pour le Sénégal.
Adama Sadio, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, Jean-Claude Comé recevait Adama Sadio, politologue sénégalais également en charge du cours à l'université Cheikh Kanta Diop de Dakar. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel de l'essentiel. Le budget de l'État de l'année 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses à 13 720 milliards de francs CFA, soit une progression de 17,3% par rapport à 2023. C'est en tout cas la principale information sortie du Conseil des ministres d'hier mercredi, tenu au palais présidentiel et présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Et enfin, dans l'actualité internationale au Mali, les casques bleus tchadiens commencent à quitter Kidal plutôt que prévu. Et voilà, c'est la fin de cette édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. Le budget de la Côte d'Ivoire pour l'année 2024 s'élève à plus de 13 000 milliards de francs CFA. L'information émane du Conseil des ministres d'hier que reprennent presque tout.